stop. This is not the journey's end. Can you make your own life better? You are not alone, my friend. When you reach the top, don't stop. Radio G 101.5 FM. Bonjour à toutes et à tous, allez, on va refaire une réintro. On ne sait pas pourquoi, il y a eu un petit cafouillage. C'est parti pour le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Suite à un faux départ, ça arrive, ce sont les joies du direct. C'est pour ça qu'on aime faire ça en direct, parce que sinon on s'ennuierait. Et puis surtout, on n'aurait pas le temps de programmer et de préparer les émissions. Donc on vous fait ça en direct avec les petits cafouillages qui vont bien avec. Rassurez-vous, vous êtes bien sur la case de Seb, comme tous les lundis de 19h à 20h. J'ai mon cher ami Anthony qui est déjà mort de rire et on a à peine commencé. Eh bien ce soir je suis avec Anthony, Tony et Anne-Li.
Ouais. Salut.
Les dames d'abord, on aurait
dit, ça aurait été mieux.
Ouais. Non, je suis désolé. Mais ton lancement que personne n'a entendu était super.
Eh ben oui, mais c'est pour ça que je l'ai refait bien comme ça et tout. C'est parfait. Ah, ravi de t'avoir avec nous, Anne-Li, du coup.
Oui, j'ai séché mon émission qui habituellement est l'émission d'avant, mais je suis désolée, il n'y en avait pas, mais je suis là.
Mais c'est pas grave, on est ravi de t'avoir avec nous. Alors, tu as lu un album il y a un petit moment et tu vas pouvoir nous en parler dans quelques instants, mais juste avant, on avait un petit passage, passage obligé de news.
Oui.
Puisque exact. Tony s'occupe des news. Alors, il m'a dit qu'il allait les lire telles quelles.
Carrément.
En fait, non, mais tu peux pas.
Non,
juste...
non, mais alors, en fait, le truc, c'est que je les ai lus rapidement et je pense que ça va pas être terrible si je les lis pas. Donc, autant les lire, que ce soit un tant soit peu qualitatif. Et puis, du coup, comme ça, tout le monde s'en portera mieux.
Ouais.
Moi, le premier.
Pas de soucis.
Et puis, pour la semaine prochaine, j'essaierai de faire un effort. J'ai dit que j'essaierais.
Ah non, mais moi je ne juge pas.
Non, j'entends bien. Donc du coup, on va remercier ActuaBD encore une fois, qui est notre fournisseur de news officiel.
Merci.
Et un jingle, maintenant que ça marche la technique.
Oui, mais j'ai...
Ah oui, voilà. D'accord.
Le jingle news, je l'ai. C'est parti.
Voilà, parfait.
Parce qu'il a vu que j'avais pas amené la tablette ce soir, il s'est dit, tiens, c'est mort, je vais le mettre dans son caca.
Pas aussi chafouin que ça, quand même. Première news pour ce soir, Glénat propose un produit dérivé original d'une de ses séries phares. Est-ce que vous savez, à tout hasard, de quoi il s'agit donc ?
Bah déjà, faudrait savoir la série phare.
Bah non, ce serait trop facile pour le coup. Mais alors si, effectivement, on peut la citer, c'est le Dragon Ball d'Akira Toriyama.
Oh.
Donc effectivement, on est sur une série phare, on est sur du culte. Non, bah Glénat, en fait, alors après, il pourrait effectivement faire des produits dérivés. Non, pas une boule non plus.
Pourquoi t'as une autre émission à côté, en fin de compte, tu fais les mêmes blagues que nous, toi ?
Pas du tout. Ah bah si...
Non, non, les blagues sont très différentes.
Sébastien, si je te dis Thibaut Villanova, ça peut peut-être t'aider.
Ah oui, si, je sais ce que c'est, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, Thibaut Villanova, le cuisinier qui est
le créateur de la marque GastronoGeek.
GastronoGeek, qui est le chef du...
Il a arrêté maintenant, parce que du coup, son
dernier
activité...
bar avant la fin du monde. Voilà. Et ben ouais, du coup, je sais, effectivement, je l'ai vu, il a fait, la cuisine de Dragon Ball.
Exactement, tout à fait, ouais, la cuisine de Dragon Ball. Et de quoi donner envie de cuisiner aux plus petits ou de renouveler les recettes familiales. Alors, dans l'eau, il y a le Saiyan Takoyaki, le bento de Shishi ou encore le bœuf rôti de la salle de l'esprit du temps. Voilà, entre autres, ce que vous réservent les recettes. 37 au total proposées dans ce beau livre cartonné dédié à l'univers de Goku et de ses amis. Et c'est un cuisinier un peu particulier, amoureux de la pop culture et geek, qui se trouve à l'origine de ce drôle et bel ouvrage, le fameux Thibaut Villanova.
Alors si vous tapez son nom, Thibaut Villanova ou GastronoGeek, vous allez avoir également tous les bouquins qui ont pu être faits, puisqu'il a officié également sur l'album sur les cuisines d'après Astérix.
Oui, il a fait ça, en fait, il a fait le Star Wars Cantina qui date de 2015, Assassin's Creed également.
Ah, j'avais loupé l'Assassin's Creed.
Codex culinaire en 2017, ou encore les banquets d'Astérix, où du coup, doit y avoir du sanglier rôti, forcément, ce que mangent les Gaulois. Et mais moi, j'avais connu Thibaut à l'époque en le rencontrant sur les conventions geek, parce qu'il avait fait deux bouquins qui ont énormément marché, justement. C'était le livre des potions qui était...
basé sur l'univers d'Harry Potter.
Exact. Pas uniquement, en fait. Le livre des potions, c'était des cocktails. En fait, alors tu pouvais avoir des cocktails aliens, des cocktails Walking Dead, des cocktails de toutes les séries qui lui passaient par la tête.
J'ai pas tout retenu, en fait.
C'était son deuxième bouquin.
Ce qu'il y a, c'est qu'il est très, très, très prolifique. Là, il a fait des partenariats, que ce soit Dragon Ball, que ce soit Astérix. Je crois qu'il y en a d'autres, Assassin's Creed, tu les as tous cités,
ouais.
Mais c'est vraiment fun ce qu'il fait.
C'est très très bien, c'est qualitatif en
c'est
plus.
C'est super
moi j'ai
beau,
pu manger à plusieurs reprises dans une de ces. J'allais dire gargotes, c'est pas le terme qui convient parce que c'est pas très.
Restaurant
gargotes,
c'est des restaurants mobiles, enfin c'est des food trucks que tu retrouves maintenant sur tous les événements culturels, que ce soit la Comic Con, la Japan Expo et tout ce qui fleurit avec à grand renfort de geeks dans toutes les villes de France. Il est présent
alors,
partout.
Si vous aimez vraiment ce qu'il fait, si vous aimez les mangas, parce que lui c'est un peu plus Sakam que non.
Non, je pense qu'il vraiment il a une culture très ouverte. Donc
mais c'est visuel. Hein,
il est sur la
chaîne
pop culture,
YouTube,
ça c'est une évidence.
Carton. Anthony me montrait ça, effectivement, il a fait une dernière vidéo en montrant comment faire de la bouffe à la Food Wars.
Exactement.
Truc de dingue. Et je l'avais vu faire une pub où il faisait des saucisses à la Borderlands.
Bah ouais.
Et c'est des saucisses cramées, mais il a fait sa saucisse de base, hein, il a, avec son boyau et tout le enfin, bref, on est dans une émission culinaire en fait maintenant.
Préfère manger Food Wars alors que la bouffe à la Fallout, par exemple, ce serait beaucoup moins gustatif, tu vois.
Ouais, clairement, mais je suis persuadé qu'il est capable de faire des trucs qui vont ressembler et qui vont être au moins aussi. Parce que c'est ça son challenge, hein, c'est de faire des trucs qui sont inspirés et qui marchent. Dans le premier GastronoGeek, tu retrouves une recette pour faire des lembas, hein. Donc les espèces de petits paniers dans le Seigneur des Anneaux, les sandwichs qui sont censés nourrir un homme pendant 3 jours et dont les hobbits s'en farcissent 4 au petit-déj, eh ben il en a fait une recette. Donc il a essayé de garder en plus le côté, enfin bref, je vais pas vous trop vous détailler, mais le côté consistant, le côté appétissant et la tronche que ça peut avoir. Et du coup, c'est, je pense que créativement parlant, c'est hyper intéressant.
Ah bah oui,
c'est compliqué.
Même... Oui,
même avec sa cuisine sur le monde de Zelda, moi, que j'ai découvert grâce à mon frère sur YouTube.
Il s'éclate. Next.
Sinon, tu sens qu'on va y passer.
Non, mais moi, enfin, je suis.
Voilà, on sent les fans et du
Thibaut,
coup,
viens,
les
viens
gars
le
sont
voir.
Un peu habités. On va rester dans la gastronomie parce que voilà, j'ai une info insolite à Bruxelles. La bande dessinée est une carte de resto et inversement. La Belgique est le pays du surréalisme. Des projets les plus fous y naissent parfois, des œuvres hors normes, inclassables, mais qui permettent de pousser le curseur de la BD dans des territoires insolites. Go West en fait partie. On peut ergoter pour savoir si Bruxelles mérite ou non le titre de la capitale de la bande dessinée francophone, mais de toutes les capitales, elle reste certainement celle qui affiche le 9e art d'une manière totalement affirmée et parfois inattendue. Ainsi, les plaques de rue bruxelloises se sont doublées de patronymes liés à la bande dessinée, de personnages et de BD s'affichent en taille démesurée sur les murs de la ville, dans la réception des hôtels ainsi que dans les restaurants. Alors ça, c'est vrai pour y être allé. Effectivement, voilà, si vous aimez un tant soit peu la bande dessinée, Bruxelles est un peu la destination où vous devez vous rendre. Alors certes, décorer un établissement ou la carte de celui-ci avec des éléments de bande dessinée n'a rien de bien neuf, hein, ça a déjà été fait à plusieurs reprises. Pourtant,
un super resto à Saint-Malo de crêpes qui fait
oui,
ça.
Oui, en l'occurrence, ouais. L'une des meilleures tables bruxelloises, en taille comme en délire, a poussé le challenge nettement plus loin, réaliser un album de bande dessinée complet, alors savoir 40 planches, comme carte de menu pour ses clients. Donc en fait, on te file un album dans les mains au moment où tu vas manger là-bas.
C'est le droit de te barrer avec ou pas?
C'est beaucoup.
Je suis pas sûr en fait qu'on ait le droit de partir avec. Alors présenté ainsi, ouais, effectivement, ça semble complètement farfelu. Cette idée est pourtant au diapason de la politique de communication de Lynn Ergreen, ce ranch démesuré qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes à l'intérieur et autant dans son patio extérieur. Tout y est à l'américaine, la taille des plats, la décoration intérieure, les costumes du personnel jusqu'au patron Mike qui se fait appeler le shérif. Voilà.
D'accord, donc, le truc de
fort
dingue.
À parier que concrètement ce soit une bande dessinée qui lorgne du côté du western. J'aurais tendance à penser ça.
Mais avec du coup, moi j'aurais même carrément espéré du comics quoi.
Alors j'ai vu quelques planches. Non, on n'est pas sur du comics. On est sur du western en fait à l'européen.
Voilà. Ça doit être très très long de choisir ce qu'on
je
veut
sais pas en fait. Ça m'interpelle. Donc la prochaine fois je vais à Bruxelles, je pense que. Alors je suis pas fan de bouffe américaine de base, mais juste pour la curiosité, peut-être ça vaut le coup d'aller voir.
Il faut. Ouais, je curieux.
Ouais, voilà.
Bonjour. Vous voulez dîner? Non, juste consulter de la carte.
Alors en tout cas, le but du jeu c'était de faire parler de lui. Il a réussi ça par marche. Ce biais-là. Il a eu raison. L'agence de com également. Donc bravo pour ça.
Tiens, je vais glisser, si ça t'embête pas, une news la entre glisse, glisse. Comme ça. On a aujourd'hui sort la bande-annonce de Bloodshot, la première adaptation cinématographique d'un comics des éditions Bliss Comics. Du coup, je ne connaissais pas, alors j'ai jamais lu de Bliss Comics, je sais que c'est assez qualitatif. Et là, c'est un film d'action par les producteurs de Fast and Furious.
Donc
avec,
du coup, il y a
bizarrement,
Vin Diesel.
Oui, voilà.
Forcément.
Dans le rôle titre. Il faut savoir que Bloodshot, c'est l'histoire d'un ancien soldat qui a été récupéré, on lui a lavé le cerveau, on lui a balancé des nanites dans le corps, et du coup, on en a fait un super soldat qui est programmable en fonction des missions.
Quelle histoire.
Et puis à un moment, bah, bizarrement, ça va pas se passer comme c'était prévu, et il y a des bribes de souvenirs qui commencent à lui revenir. Mais du coup, un truc qui va être certainement survitaminé, je peux pas faire de comparatif, parce que comme je le disais deux minutes avant, j'ai pas lu en fait Bloodshot aux éditions, mais du coup ça peut être vachement sympa de voir autre chose que pour une fois du Marvel ou du DC, quelque chose de peut-être un peu plus novateur. Après on sait que les gars de Fast and Furious sont capables de faire des trucs de narvalo, ça peut être l'occasion d'avoir un truc d'action extrêmement débridé, loin des standards qui ont fini par être imposés au fil de la dizaine d'années Marvel quoi.
Oh la vache. Ma phrase était longue, hein, bravo.
Ouais, mais...
Non, mais c'était...
Bloodshot, ça sort le 4 mars 2020, c'est scénarisé par Dave Wilson, c'est avec Vin Diesel, Guy Pearce et Eiza Gonzalez, mais je sais pas qui c'est. Donc...
On l'embrasse.
Non, ouais, ça va être cool, je pense. À toi.
Du coup, ce week-end, en fait, ça aurait été dommage de pas en parler. Il y a Quai des Bulles 2019, oui. L'édition. Enfin, t'as Air Marin et bande dessinée dans la cité corsaire, rien que ça. Alors, comme à chaque automne, alors que les arbres perdent leur parure, la ville de Saint-Malo se met aux couleurs du 9e art. Le désormais bien connu festival de bande dessinée et l'image projetée de Saint-Malo, Quai des Bulles, qui est devenu clairement une institution au fil des années. L'événement prendra place du 25 au 27 octobre 2019 dans la cité corsaire. Alors, c'est pas tout à fait intramuros, hein, c'est en face de la cité des congrès.
Bon, c'est à 100 mètres hein, des murs.
Exactement. Et du coup, voilà, si ça vous gonfle d'arpenter les ruelles des libraires et des éditeurs, vous pouvez très bien aller faire un petit tour sur les remparts. C'est un des festivals les plus sympas.
Ah, il faut
peut-être pas au monde, mais
en tout
cas. Il faut
faire les deux, en fait.
Oui, c'est ça, ouais. Bah, après, quand tu y es ce week-end.
Et puis, quand t'es un grand fan de BD et que ta famille y est pas, tu les largues dans ouais. Saint-Malo pour faire les visites. Toi, tu fais des files d'attente et puis tranquille.
Exactement.
C'est bien aussi.
Bien joué, bravo. On sort le métier. c'est le même week-end que la Comic-Con à Paris, donc il y a deux gros événements, en l'occurrence. Un pour plus axé fan de comics, définitivement, et pop culture, et puis Saint-Malo, qui est un festival un peu plus classique dans sa forme, comme on peut en voir depuis de nombreuses années.
globalement assez dynamique quand même sur les expositions.
Ah bah,
il y a des expos qui sont
énorme.
Quand même assez
Oui, complètement. Ça fait partie des festivals qui, alors à mon sens, hein, c'est un avis totalement perso que je vais donner, valent parfois celles d'Angoulême et, ouais. et les surpassent même.
Je les trouve plus
qualitatives.
Je veux pas critiquer Angoulême.
Non, bah, ce serait dommage.
Pour expos, mais
on se fâche.
C'est surtout que je les trouve assez créatives. On a pu avoir une exposition sur Guillaume Bianco où tu découvrais l'expo avec,
absolument
une,
génial,
avec
ouais.
une loupe, enfin pas une loupe, une lampe torche à la main.
Tout à fait.
On en parlait l'expo sur Peters.
Il y a quelques semaines de ça, ouais, effectivement.
Quelques années même, je dirais.
Non, enfin, je veux dire, quelques semaines, on en parlait il y a quelques semaines.
Oui, on en parlait il y a quelques semaines, où du coup, il y avait des tapisseries avec des gens qui faisaient des choses.
Oui.
Et
c'était fort à propos.
C'était fort à propos.
Je trouvais
c'était...
ça très bien.
Et du coup, ils innovent, ils essaient de faire des trucs un peu originaux et ça passe super bien.
Bah oui, enfin voilà, c'est, pour ça, c'est un très très bon festival. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes du côté de Saint-Malo ou si vous avez envie de vous faire un bon festival en bord de mer. Et comme le veut la tradition, l'affiche est dessinée par le Grand Prix de l'année précédente. Et c'est donc cette année...
Ah, je t'avoue que je sais pas.
La talenteuse Marion Montagne. La talenteuse Marion Montagne, qui illustre cette 39e édition de l'événement.
Je suis très drôle en même temps.
Alors, pour moi, hein, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, parce qu'il y a des gens pas aussi... J'en sais pas. Non, je vais fâcher si je sors cette phrase-là, donc je vais pas la dire, mais ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas, parce que du coup, elle suit un peu les traces de celle de Bouzard, qui avait fait grand vent à l'époque, mon sens, est une des meilleures affiches que le festival ait jamais connue. Je vais peut-être me faire une chier d'ennemi en disant ça, mais tant pis, c'est pas grave. Donc elle suit un peu ces lignes-là, en fait, qui ont été dessinées par Bouzard il y a quelques années. Et grosso modo, l'idée, c'est que alors, dans un graphisme typiquement Marion Montaigne, on a des livres qui débarquent de l'espace, armés de crayons à la main, des gros crayons, qui font office de lance et qui poursuivent des mouettes sur les remparts de Saint-Malo. Et je trouve ça super drôle.
Encore une fois, tu vois, le côté innovant du festival, c'est de casser un peu cette image traditionnelle de la belle illustration.
Bien sûr.
C'est d'avoir un truc un peu plus fun. Et à l'image des expos dont on parlait.
Et puis c'est représentatif du monde de la bande dessinée d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une Marion Montaigne, voilà, il y a eu Plessis en son temps, il y a eu des auteurs plus classiques, mais tout aussi talentueux. Et là, pour le coup, céder la place à des graphismes un peu plus contemporains, un peu plus novateurs, c'est pas du tout du
plus
tout
dans
dérangeant.
L'air du temps.
Voilà, tout à fait.
J'en ai une autre en ton temps.
Ah bah vas-y, moi j'en ai une toute dernière, mais elle est pas très très longue, c'est juste pour annoncer que bah, du coup, le 24 octobre, donc ce sera jeudi prochain, il y a un gros événement, enfin en tout cas à mon sens, moi, ça va être Astérix sur la piste d'adrénaline, la fille de Vercingétorix, voilà. Alors que le 60e anniversaire d'Astérix, en fait, il avance au rythme des différentes célébrations, son point d'orgue est bien évidemment la sortie du 38e album, Save the Date, le 24 octobre, comme d'habitude, les éditions Albert René entretiennent le suspense, mais ça devrait être très très bien. Il y a quelques images qui circulent sur internet. Graphiquement parlant, c'est toujours aussi bon.
Enfin, au moins
la couverture. Alors, on n'est même pas sûr que ce soit la couverture définitive. En fait, ce sont des visuels, mais ça m'a l'air très très sympa. Enfin, voilà. De toute façon, Astérix, moi j'achète les yeux fermés, je réfléchis pas. Ça m'a posé des problèmes d'ailleurs par le passé, parce qu'il y en a des albums qui n'étaient pas très très bons. Mais depuis que ces deux-là, en fait, Ferry et Conrad ont repris les rênes, je trouve que c'est...
Il y a une certaine constance et...
Je retrouve le plaisir de lecture que j'ai pu avoir avec Goscinny et Uderzo gamin, donc bah voilà, faut pas bouter son plaisir. J'ai fini pour mes news à moi.
Et ben moi je vais finir sur une news, alors pas tout à fait de la BD, hein. Est-ce que vous savez, vous rappelez les petits casse-têtes là, avec des billes, des petits labyrinthes où ça tourne un petit peu comme ça.
Oui, ce qu'on gagnait dans les kermesses.
Voilà, alors il y a quelques années en fait, il y a des gens, ils ont fait un truc qui s'appelle Cube. C'est des espèces de petits carrés et c'est le même concept. T'as la bille qui part à un endroit, faut l'emmener à un autre endroit.
Ouais.
La particularité, c'est que le cube étant opaque, tu navigues à travers les différents
en
niveaux,
aveugle, ouais.
Simplement en aveugle ou en suivant le plan qui était sur le cube.
Ça avait été financé par le biais du Lul, ça, à l'époque. Ouais.
Exactement, il y a 6 ans, je crois.
Ouais, quelques années.
Et du coup, le concept avait fait son chemin, ils en avaient fait des de plus en plus compliqués, ils en avaient fait je crois que c'était awful, donc ignoble en anglais, qui était extrêmement dur. Il y en avait même où il n'y avait pas de plan, donc du coup tu te débrouillais pour essayer
jamais.
De comprendre,
oui, ouais,
t'étais au son pour savoir où était ta bille. Et du coup là ils lancent aujourd'hui un nouveau financement participatif, et là vous allez me dire, mais Seb t'es mignon, tu nous parles de jeux avec des billes, mais quel est le rapport avec la BD? Annie, tu voulais ?
Non, non, je sais, mais t'es mignon, t'es gentil, mais quel est le rapport avec la bande dessinée ?
Eh bien, il faut savoir que là, ils sortent un truc qui s'appelle Legends 3, enfin Inside 3 Legends, et qu'ils ont fait appel à 3 artistes pour illustrer les packagings des jeux. 3 artistes de BD, 3 artistes archi connus. Est-ce que vous sauriez les deviner ? Non, je sais que vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu la news.
Comme ça, balancé, c'est dur. Mais alors, ce sont des Français, des Américains, des...
Alors, nous avons 3 Français.
Alors,
trois Français, mais qui vivent pas forcément en France.
D'accord.
Et 3 Français qui ont un lien un petit peu particulier avec le web, et notamment pour l'une d'entre elles, pour deux d'entre elles, un lien très fort avec Ulule.
Dans des gens, on est sur des femmes, donc il y a Laurel dans l'eau.
Il y a Laurel, ouais, voilà. Bravo.
Et il y a peut-être aussi, j'ai cru y voir passer cette news parce que justement elles annonçaient leur venue sur Saint-Malo, je crois.
Ah, peut-être.
En dédicace, ouais, par le biais d'Ulule également. Donc non, les autres, je les ai pas. Melaka peut-être, non, pas Melaka, non.
Attends.
Elsa Brandt, non plus.
Non, alors il y a K apostrophe me, je sais K, pas comment lier, si on s'excuse.
Ouais.
Enfin, moi je m'excuse en tout cas, Kme.
Kme, ouais, je... Kme c'est bien.
Kme. Et puis il y a Boulet.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, les packagings ont été illustrés et, comment dire, la carte qui va nous permettre de nous diriger à travers les bouquins, à travers les espèces de petits jeux, ont été dessinés par par ces 3 auteurs.
Génial idée.
Faut savoir que Laurel s'est occupée de la version la plus difficile, puisque sur les 3 niveaux, on va avoir le The Castle, The Ninja and The Crypts. Et il faut savoir que la crypte étant plus dure, il y a 4 plans.
D'accord.
Et pour essayer de te repérer dans le jeu. Donc ça se passe comment ? En fait, on a un petit jeu avec une partie sur le dessus vitrée, et du coup on va déplacer notre bille à travers, sachant qu'il y a toute une partie cachée à l'intérieur qu'il va falloir pouvoir se dépatouiller avec le plan. Et du coup ces plans, tu connais le graphisme de Laurel, plutôt oui. Mignon et choupi. Elle a foutu du sang et de l'hémoglobine un peu partout.
Ah, ça peut être
ce qui
rigolo.
Fait que c'est assez funky, c'est assez cool.
Tu peux nous rappeler le nom du jeu ?
Alors le jeu ça s'appelle Inside 3 Legend, donc Inside avec le petit 3 en haut, Legend, c'est en financement participatif sur la plateforme Ulule depuis aujourd'hui. Alors moi j'y suis allé ce matin, ils demandaient 6000 euros, là ils viennent de casser la tirelire puisqu'on est à 128% avec 7700.
Bah oui, ne serait-ce qu'avec Boulet et Laurel, tu vois, comme nom. Puis après le concept de Inside, enfin 3, c'est, en fait ça veut dire cube.
Ouais, c'est ça.
Du coup c'est un exposant.
T'es très fort toi.
Non mais t'as vu ça un peu. Du coup à l'époque ils avaient déjà eu Alexandre Astier comme parrain.
Ouais.
Donc ça a toujours été
moi,
des cartons
kiffé.
Assurés. Ouais.
Alors je sais qu'on n'a pas le droit normalement de faire de la pub pour les tarifs, mais pour moins de 10 balles, on a
un jeu
et c'est livré avant Noël.
Ah ouais, maintenant ils sont forts là-dessus.
Non mais là ouais effectivement.
Oui, ils sont balèzes.
Donc, il faudra que les jeux se trouveront dans le commerce à plus de 10 euros du coup après.
Oui.
Donc, c'est l'occasion de faire des trucs.
Allez-y
sympa.
Maintenant. Elle dure combien de temps la campagne ?
La campagne, elle va durer un mois.
D'accord.
Donc, elle finit dans 26 jours exactement et ils ont annoncé une livraison mi-novembre. Donc, voilà.
Ok.
Si vous souhaitez que le Papa Noël vous offre des trucs, eh ben, n'hésitez pas, ça va être l'occasion. On a vachement, vachement débordé sur les news, on s'est lâché aujourd'hui. On se fait une petite pause musicale avec un truc qui va faire plaisir à notre cher ami Anthony.
Ah oh non, c'est The Cure à tous les coups.
Non,
pas la tête.
Il voulait qu'on mette un truc qui s'appelle Dance Monkey et on va mettre Dance Monkey.
Mais pourquoi on l'écoute, lui ?
Mais
parce que je suis un homme de
tant
goût.
Pis, tu vas t'en vouloir.
Allez, on se retrouve après Dance Monkey. Good job. I'll leave this one over here for you. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more. Dance Monkey. Vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. Il y avait mon ami Anthony qui est en train de se trémousser sur la musique, c'était cool. De quoi ?
Trémousser.
Oui, bah tu t'es trémoussé, oui.
Oui, je me trémousse tout le temps, moi.
La musique était cool ou c'était le fait qu'il...
Bah, je suis pas... Merci. Ouais. Tu dis la musique était cool ou c'est le fait qu'il se trémousse qui était cool ?
C'est le fait qu'il se trémousse en musique qui était cool.
D'accord, les deux.
Allez, vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb. C'est toujours la meilleure émission de radio de bande dessinée sur le 101.5 de Radio G. C'est aussi la seule. Et c'est au tour d'Anne-Li qui...
C'est vrai ?
Oui.
J'ai préparé une chronique.
Oui.
Il paraît que j'ai fait ça. J'ai préparé une chronique.
Il paraît que tu as pris le temps, donc elle a intérêt d'être bien.
J'ai pris le temps. Et il y a quelques temps, au printemps 2019, est sortie Taureau et moi, une bande dessinée écrite, dessinée, réalisée entièrement par Cédric Talin, ou Taling, je ne sais pas, on va l'appeler Talin, car nous sommes dans un pays francophone. Et elle est sortie aux éditions Rue de l'Échiquier BD. Alors c'est la première bande dessinée de l'auteur. Je vous fais sa bio en 2-2.
Vas-y.
Il est né en 76, il est d'abord peintre, illustrateur, il a fait des choses à Canal+, où il a été scénariste, il est passé par le dessin animé, la télévision, le cinéma, enfin vous voyez, il a plein de choses dans l'audiovisuel dans sa carrière, et plein d'influences graphiques américaines et japonaises. Et puis il a aussi cofondé un centre d'art à Alfortville qui s'appelle La Traverse. Bref, quelqu'un de super occupé.
Ouais, qui n'a pas l'air de s'ennuyer.
Non, je crois pas. Et qui s'est dit, je vais écrire une bande dessinée. Qui part vraiment de lui, sa vie quand même, et de ce qu'il reçoit. C'est une bande dessinée qui est nourrie des lectures des risques écologiques, urgences climatiques, catastrophes climatiques aussi. Enfin, tous les trucs un peu flippants qu'on voit. Qu'on perçoit, qu'on traverse aussi. Donc on suit lui, comment il s'est mis en scène, quadragénaire, et sa famille un petit peu, comment il va traverser ses prises de conscience. En fait, ça débute avec le début de sa prise de conscience. Et tout au long de la bande dessinée, il y a aussi la présence de Henry David Thoreau, qui est un auteur américain du 19e siècle, qui ne sait pas encore, philosophe et tout ça, qui a beaucoup pensé la désobéissance civile.
Et le minimalisme, c'est ça aussi.
Qui est beaucoup cité par des personnes décroissantes, on veut, etc. Qui a aussi une pensée écologique, qui était aussi biologique, et qui a écrit Walden ou La vie dans les bois. Parce qu'en fait, Thoreau s'est retiré dans une cabane qui était un petit peu à l'écart de la ville, au bord d'un étang, et a vécu de façon un petit peu plus solitaire, et en tout cas un peu plus en dehors de la société que ses comparses.
Une sorte d'ermitage, en fait.
Oui, une sorte d'ermitage, mais je ne maîtrise pas très bien le sujet, David Thoreau, ni ermitage non plus. Donc dans cette bande dessinée, Thoreau et moi, on suit Cédric. Sa vie, ses questions, comment on fait, etc. Et puis il y a ce personnage qui revient souvent qui est Thoreau, en fait, qui est incarné, qui est dessiné avec des citations issues de Walden ou des extraits ou des transformations de citations. En gros, pour le résumer. Tu valides, Seb ?
Je valide.
Parce que tu l'as lu aussi ?
Oui, je l'ai lu. Alors, ça remonte un petit peu, quand même.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on a ce personnage qui vient et qui l'interpelle de manière parfois assez abrupte. Cédric va être au milieu d'une discussion et on a le gars qui arrive derrière qui fait « T'as pas l'impression que tu te fous du monde ?» Tu vois, il intervient de manière assez, assez brutale. Et du coup, ça donne un truc assez étrange parce qu'on ne sait pas s'il est vraiment là, on ne sait pas si c'est une hallucination, on ne sait pas... le sentiment est complètement... On est perturbé, en fait, à la lecture au départ.
Ouais, la BD joue un petit peu sur plusieurs plans, à la fois sur récit de sa vie. On est plutôt dans un univers très contemporain, un peu mondain aussi. Il peut faire des vernissages, on le suit un petit peu dans sa vie de famille, etc., etc. Et puis, il y a des fois des moments où on se retrouve en plein milieu du Far West, où on voit ce personnage qui peut être mi-végétal, mi-humain.
Qui prend le pas sur la réalité, en fait.
C'est vrai.
Et ça fait quelque chose d'assez bizarre, parce qu'on suit ce personnage de Cédric qui va au contact, en fait, de ce cet alter ego, on va dire, fantasmé, commencer à prendre le pli justement de la décroissance et à se reposer des questions en fait sur son mode de consommation, je ne sais plus parler, et du coup qui nous interroge nous aussi sur notre façon de vivre. Et c'est hyper, hyper intéressant.
Mm-hmm. T'es en train de glisser ta chronique dans ma chronique, trop fort.
Pardon.
C'est très judicieux, c'est très bien dit.
Oh, le même spreading.
Mais.
Non.
Alors c'est encore différent, on va pas faire de moment de pédagogie maintenant. Je vais au bout de ma chronique Soro et moi de Cédric Tallin. Donc c'est vraiment lui, il part de sa prise de conscience à lui en tant qu'auteur qui devient un personnage. La bande dessinée elle est séquencée en 3 chapitres, exposition, un peu comment il vit face à l'urgence, la catastrophe, recevoir l'information. Ensuite il y a exacerbation. Là, c'est vraiment, il est en mode angoisse, nos futurs, un peu, il va tenter des voies ou des choses qui n'ont aucun sens, en fait. Et à la fin, il y a la partie rémission, où là, on voit qu'il trouve son écriture, enfin, pas son écriture, mais sa solution personnelle. Parce que c'est vraiment lui, comment il va trouver un équilibre qui lui appartient. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que le livre, la BD, navigue entre différentes choses, à la fois des moments de récit ou un peu documentaire, entre guillemets, hein, du type inspiration de la vie réelle, des moments plus métaphoriques ou imaginaires. Je tourne mon papier, parce que je ne sais plus ce que j'ai dans mes notes. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment qu'on part du point de vue de quelqu'un à qui on peut éventuellement s'identifier. Un petit peu ce que tu disais, Seb, j'ai l'impression. Et qu'on se retrouve au début d'un parcours vers un changement de vie, ou en tout cas des questionnements là-dessus. Et ça part de constats super simples, de problématiques hyper quotidiennes et du désarroi qu'on peut peut-être partager. Donc ça, c'était assez chouette. Et au début, tout le début, il y a très souvent la phrase qui revient « Il fait chaud pour un mois de novembre quand même ». Et ça revient un petit peu comme un
comme
truc. Ouais, j'ai oublié le mot. Mais bon.
C'est une sorte de rythme en fait dans l'album qui vient reponctuer systématiquement et nous recadrer dedans. Ouais.
Et on sent vraiment l'envie de faire face aussi aux contradictions, de comment on répond à ça. Y a vraiment un effort de l'auteur aussi pour mettre cette démarche personnelle en récit, pour la partager avec d'autres. Donc ça, c'est assez chouette de passer de journal à bande dessinée. Après, la narration est pas, enfin moi je l'ai pas trouvé toujours révolutionnaire, sans que ce soit dramatique.
Non, puis il y a des moments qui sont un peu durs parce que c'est quelque chose qui est quand même assez bavard. Et du coup, ça rend la lecture qui, même si le dessin nous entraîne assez facilement, c'est pas super fluide en fait.
Oui.
Tu vois, on passe sur des pages qui vont être, on va pas dire vides, mais qui vont être plus contemplatives, et puis du coup, on va voir des passages de texte assez denses, et du coup, ça fait des cassures de lecture qui sont assez dérangeantes parfois.
Ouais, et parfois, moi, j'aurais bien aimé peut-être des moments plus contemplatifs ou avec plus d'espace pour nous qui lisons la bande dessinée, en fait. Effectivement. ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut un peu aborder la pensée de Sorrow, Henri David, qui est incarné par ce personnage. Alors après, c'est des extraits, des reformulations, donc c'est vraiment en surface. Enfin, disons qu'on va pas, c'est pas.
On va pas approfondir.
C'est pas une adaptation d'un essai ou d'un texte de Sorrow. C'est quelque part, il peut lui faire dire ce qu'il veut, et c'est très bien aussi de s'amuser avec cette pensée-là, mais on reste quand même sur des choses, des extraits. Des moments, il devient un petit peu utilisé dans son ressort narratif.
Mais... sans que ce soit artificiel. C'est ça qui est intéressant.
Oui. Et c'est bien aussi, ça peut donner envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est chouette. Moi, après, j'ai été un peu entre les deux. J'ai bien aimé le fait que ce soit un point de départ de quelqu'un qui se pose des questions personnellement. Et puis, des fois, il y a peut-être un peu trop de présence de l'auteur-personnage, plutôt du personnage en tant que lui-même, où j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être plus de personnages secondaires ou de place pour nous, tu vois, de choses contemplatives.
Pour qu'on puisse rentrer un peu plus dedans. Après, c'est une réflexion de l'auteur par rapport à d'autres problématiques. Ouais. Donc, c'est dur de laisser de la place dans ses propres réflexions aux autres, je pense.
Ouais, mais en tout cas, j'ai bien aimé, moi, les moments où on voit qu'il a observé des situations et qu'il les retranscrit dans la bande dessinée. Je trouvais qu'elles étaient assez justes, ces choses-là. Après, je pense que c'est très compliqué de faire une telle BD avec énormément de choses, en fait. Je pense qu'il a envie de mettre énormément de choses. Et c'est pas si simple.
Mais déjà, il inclut dans ses problématiques de vie, ses choix de vie, il inclut sa famille. On a ces personnages secondaires quand même qui sont présents et qui sont aussi une problématique un peu plus amplifiée derrière.
Oui, après, je pense aussi qu'il l'a écrit il y a peut-être... Enfin, que c'est un récit qui a quelques années maintenant. Parce que j'ai quand même l'impression que, globalement, maintenant, il y a quand même un consensus sur devoir changer nos modes de vie. Mmh. Et là, par exemple, il a deux filles, une qui dit « Mais vas-y, moi, je veux juste manger des kebabs. » J'ai quand même l'impression que c'est pas ce qu'on entend majoritairement, mais peut-être que ça a pu être le cas, et c'est bien quand même que ce soit mis dedans.
Et ce qui, fait, ce qui rend le bouquin extrêmement actuel.
Je sais pas. Oui,
si,
en partie.
Le fait qu'on puisse se poser des questions et qu'on puisse les comprendre maintenant. Il y a quelques années, ça aurait été un bobo hippie et basta.
Ah oui,
là, on
tout
peut
à fait.
Se, on peut considérer et se dire qu'il y a des gens qui vont faire cette réflexion, même si on n'accrédite pas tout ce qu'il a envie de faire. Nous, on peut avoir ces problématiques-là en conscience, et c'est beaucoup plus proche de la réalité actuellement qu'il y a quelques années.
Ouais, ça c'est... Je suis d'accord. et peut-être pour finir, moi, ce qui m'a un peu manqué, en fait, c'est que c'est qu'il positionne pas forcément ces questions-là dans des enjeux plus collectifs, plus sociaux ou politiques. Là, c'est vraiment son chemin à lui. Alors après, ça lui appartient et c'est bien. Mais effectivement, j'imagine qu'il y a un peu le temps de l'écriture, de l'édition, etc. Mais j'aurais bien aimé que ce soit quelque part un peu plus un taureau et nous. Qu'un taureau et moi, parce qu'en fait sa réponse c'est son équilibre à lui, mais c'est des choses où on est tellement un peu stoppé par l'ampleur gigantesque du truc, et du coup après on demande pas à un auteur de bande dessinée d'apporter des réponses aux catastrophes ou aux flips collectifs, hein, y a pas de souci, mais j'aurais bien aimé un petit peu que cette articulation de comment on peut faire plus ensemble soit plus présente. Voilà.
Balèze,
je sais pas.
Ah si.
En tout cas.
Ah oui, très bien. Bah, moi, je bois ces paroles depuis tout à l'heure.
Ah bon, j'ai l'impression de dire n'importe quoi.
Ça change pas beaucoup des autres dans ces cas-là.
Mais bon, pour reconclure Bis, je reprends mes notes. Donc Taureau et moi, c'est pas mal si on n'a pas envie de se sentir tout seul face à l'angoisse qu'on peut avoir. Genre bon, faudrait faire quelque chose parce qu'on nous dit que écologiquement, ça craint. Et écologiquement, ça craint.
D'accord.
Ou alors pour le partager avec d'autres personnes qui sont aussi peut-être en début de questions, de recherche. Voilà. Mais si on est déjà concerné, renseigné, voire complètement terrifié par ces questions-là, on ça n'ira pas assez vite pour nous. pour les personnes déjà dans le zéro déchet et qui sont pas encore...
Effectivement,
bref.
Ça va pas...
Donc ça dépend en fait qui le lit.
Oui.
Mais c'est pas mal. C'est une première BD qui n'est pas inintéressante. Voilà, je redonne toutes les infos.
Oui, s'il te plaît.
Donc le titre, c'est Taureau et moi, ou Thoreau et moi, si on le dit à l'anglophone, de Cédric Talin, T-A-L-I-N-G. Rue de l'Échiquier BD, c'est l'éditeur. Et je signale aussi que l'auteur travaille en ce moment à un nouveau roman graphique qui sera autour de notre rapport aux animaux et à l'agroalimentaire.
Voilà. Eh ben,
il a des marottes, le garçon.
Ouais, je pense qu'il a fait plein de prises de conscience ces dernières années.
C'est bien.
Il va en faire plein de BD.
Et ça contraste avec effectivement le point de départ qu'on a où il est plutôt un peu, pas dire élitiste, mais très urbain et mondain en fait.
Il est quand même dans un monde privilégié, oui, c'est sûr. Oui.
En tout cas, merci Annie pour cette chronique.
Bah,
tu en refais une quand
toi,
tu veux.
Avec plaisir. Invitez-moi quand vous voulez.
Le recrutement sauvage.
Non, mais c'est toujours un plaisir d'avoir des avis qui sont un peu plus extérieurs.
Bien sûr, coup, bah, ça change, oui.
C'est top.
Non, c'est sûr.
Tu avais d'autres choses à dire sur ce livre?
Non, mais je t'ai laissé faire ta conclusion et ça me va.
Merci pour tout.
Tony, tu veux?
Ah bah oui, enfin je dois surtout.
Non, mais t'es pas obligé. Moi, je peux faire une courte aparté sur un livre qu'on a reçu qui n'est pas vraiment une BD. Décidément, je parle beaucoup de choses qui ne sont pas des BD en ce moment.
Ah oui, c'est ça, la case de Seb, ça devient n'importe quoi.
Ouais, c'est dans ma tête un petit peu.
C'est la vie de Seb.
C'est ce magnifique bouquin qui a été publié aux éditions Bragelonne, qui est un peu un complément des bouquins qu'a pu conseiller Anthony, les éditions manga de Lovecraft. Non, tu voulais intervenir.
Ah non, rien, moi je fais des signes, mais ne vous arrêtez pas.
Tu fais des signes, en fait.
On n'a pas l'habitude.
J'ai
l'impression
personnel.
Que t'as une tourette.
Oui, au pire moment, je devrais y aller.
Mais tu peux y aller, on te libère, tu as le droit.
Et donc, cette fausse bande dessinée.
Et donc, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un roman illustré. Donc, Anthony qui nous a parlé des Lovecraft aux éditions Kiun.
Tout à fait.
Qui raconte les nouvelles de Lovecraft, ou les nouvelles ou les courts romans de Lovecraft en version manga. Là, on a une version roman illustré. Donc, du coup, on reprend le texte d'origine et on le retravaille. Ça a été illustré par François Baranger. Alors, je ne connaissais pas ce monsieur. Il faut savoir que le monsieur a commencé à travailler dans le jeu vidéo, dans le cinéma en tant que concept artiste. Il a fait notamment du design pour Heavy Rain et Beyond Two Souls, de super jeux que moi j'ai adoré. Le monsieur s'est lancé dans le travail, dans le roman, puisqu'il a écrit quelques petites choses de science-fiction. Je ne me permettrai pas de juger, ne les ayant pas lues. Et puis il s'est dit un jour, tiens, ce serait bien quand même que je fasse des romans illustrés d'après Lovecraft. Et du coup, ce sont ces montagnes hallucinées que nous avons dans les mains et qui sont extrêmement immersives, de par déjà la beauté du graphisme. Alors, je pense que c'est du travail quasiment numérique. Tony, tu me confirmes ?
Ah bah non, oui, c'est que numérique, oui.
C'est que numérique. C'est d'une qualité assez, assez phénoménale. Moi, j'ai vraiment adoré, je me suis laissé plonger dedans. Et le format, en fait, utilisé nous permet de rentrer vraiment intégralement dans le récit et d'en profiter autant plus. Et c'est vraiment génial.
C'est plus format grande BD que roman.
Et même par rapport à une BD, on est sur un format très, un très peu grand. C'est du format grande BD, ouais, effectivement.
Genre 24, grand livre d'illustration, surtout. Ces formats-là, tu les retrouves beaucoup dans l'illustration jeunesse, que ce soit chez Gauthier Langros ou d'autres maisons d'édition assez prestigieuses en termes de qualité. Et là, pour le coup, ouais, c'est assez atypique. Après, tu le retrouves en bande dessinée, mais sur des tirages de luxe, par exemple, ou des tirages de tête. On est sur du surdimensionné.
Et c'est vachement bien. Je me fais, alors c'est pas parce que je connais le texte, mais je me faisais les voix en fait, et j'ai les ambiances qui viennent assez naturellement en lisant ce truc là, qui est vraiment top. Je vais juste finir, parce que le but n'est pas non plus de parler de choses qui ne sont pas
de bande dessinée, enfin.
Mais Les Montagnes Hallucinées, illustrées par François Baranger aux éditions Bragelonne. Je vais paraphraser ma petite femme qui, après l'avoir lu Les Montagnes Hallucinées, a dit surtout, faut pas y aller. Moi, je dis, allez-y, au contraire, c'est vraiment bien.
Et une station de ski qui s'est ouverte apparemment récemment.
Qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées ?
Voilà. Non, je plaisante, évidemment que non.
Thomas Cook propose.
Thomas Cook voyage Les Montagnes Hallucinées. Non, allez-y, c'est vraiment super beau et c'est super bien. Tony, c'est à toi.
C'est à moi ce coup-ci, alors.
Oui,
bon,
pour de vrai.
Reparlons bande dessinée, quand même.
Oui.
Recentrons le débat. Son jingle, évidemment. Alors, moi, ce soir...
Je te le fasse à la bouche.
Non, c'est pas utile, ne t'inquiète pas. Alors, une fois, ce sera pas coutume, je vais vous parler manga, avec Mitochon Armageddon.
C'est pas courant que tu nous parles manga.
Non, c'est même la première fois, je crois bien. Non, j'avais parlé de Dr. Toilette en règle générale.
Dr. Toilette, t'avais parlé de Food Wars.
Exactement, ouais. Alors, Food Wars, j'avais parlé de Food Wars ?
Ouais, t'avais même accompagné tes filles sur la chronique.
Ah oui, exact, elle était venue.
T'avais même parlé de...
Akira, peut-être, non ?
Non, My Promised Neverland.
Oui.
T'as vu avec l'accent ?
Oui, effectivement.
Pour une BD japonaise, un accent.
Donc, c'est pas très courant, mais c'est pas non plus complètement exceptionnel. Donc, là, encore une fois, je vais vous parler de Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon, pour parodier une série connue.
Tu fais le rapprochement avec la news de tout à l'heure, en fait.
Exactement, ouais, je raccroche tous les wagons. Par Gata Roman aux éditions Akata, dans l'étonnante collection WTF pour.
Voilà, ah oui,
tu vas pouvoir le dire.
Pour What the Fuck.
La collection What the Fuck.
C'est là que t'es content que la tablette elle soit pas là, parce que je peux pas bazarder le générique What the Fuck.
What the Fuck, c'est bien ce qui nous vient à nous pauvres lecteurs à la lecture des pages du tome 1 de Mitochon Armageddon, surtout ce petit paragraphe rédigé par la main de l'auteur himself qui annonce la couleur de son état d'esprit dès le départ. Je vous le lis. Alors pour ça, il faut que tu me rendes mon livre, Anthony, s'il te plaît.
Par contre, tu vas pouvoir faire ta petite phrase à toi.
Non, c'est pas encore.
Pas encore.
Parce que là, c'est juste un petit texte d'introduction qui est écrit par Gata Roman lui-même. C'est pour vous montrer l'état d'esprit du bonhomme. Alors que j'ai découvert, moi, en fait, avec ce livre. J'ai un peu creusé. Et je me suis rendu compte qu'il avait un statut assez culte au Japon. Je vais le relire tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Ouais.
Et un état d'esprit très particulier. Alors, c'est écrit en gros, mea culpa. Et après, il se met à écrire, jusqu'à présent, j'ai toujours fait les choses à ma manière. Et tant pis si les cons ne pigent rien à mes mangas. Me disais-je. Cet état d'esprit se retrouvait dans la graphie de mon nom, Gataro Étoile Man, je précise parce que là, dont l'étoile aux pointes acérées symbolisait cette absence de compromis parfaitement revendiquée. Mais l'éducation moderne à la cool et la correction orthographique automatique des smartphones ont rendu les jeunes lents d'esprit et incapables de déchiffrer les caractères chinois. Avec ça, mes mangas ne risquent pas de se vendre. J'ai donc révisé mon approche et décidé qu'à l'avenir, mes mangas seraient d'une simplicité élémentaire, accessible même aux plus demeurés d'entre vous. Voilà pourquoi j'ai remplacé l'étoile de mon nom par un cercle, symbole par excellence de la simplicité. J'ai aussi changé le caractère chinois « man » par son équivalent en « katakana » afin que même les « millennials », ceux qui sont nés dans les années 2000, les plus nuls en orthographe, puissent lire mon nom. Vous pouvez me dire merci, bande de têtes de nœuds, Gataroman. Alors, je trouve... voilà.
J'adore alors, l'approche.
Ouais, c'est ça. Alors, quand on connaît ne serait-ce qu'un tout petit peu les règles de respect en vigueur au Japon, on se dit que, hey, culturellement, le bonhomme, il dénote quelque peu avec le reste de ses contemporains insulaires. L'auteur est là pour faire bouger des lignes qu'il estime sclérosées et va pas y aller avec le dos de la cuillère.
Ah non, clair.
Après une prospection sur internet, je me suis vite rendu compte que Gataroman était plutôt coutumier de ce genre d'égarement, et même que l'auteur bénéficiait d'un statut culte au Japon. Le type est très souvent borderline, comme là, et c'est ça, et c'est pour ça qu'on l'aime. Pour moi, ça a été une découverte, et je peux comprendre assez aisément que l'auteur puisse fédérer un public d'aficionados, tous acquis à sa cause, celle de bousculer le petit monde du manga. Alors, petit monde du manga, c'est pas tout à fait ça, c'est un gros monde le manga, mais voilà.
Mais extrêmement codifié.
Extrêmement codifié, et lui, il semblerait qu'il en ait pas grand-chose à foutre. Et maintenant, je vous lis le résumé éditeur. Là, tu peux faire ta fameuse phrase, parce que tu seras pas venu pour rien.
Le résumé.
Oh, formidable. Oui. Qui a le mérite de brosser les grandes lignes d'une intrigue totalement dingue. Alors, le résumé, donc. C'est en la date funeste du 10 juillet 310 du calendrier Mito que le sort de l'humanité a basculé. Une arche venue d'ailleurs a débarqué sur Terre, libérant des nuées d'extraterrestres lubriques. Femmes violées, hommes dévorés, sans l'intervention de 9 valeureux héros, bon, qui passaient là par hasard, accessoirement, l'enfer se serait installé définitivement sur notre belle planète. Mais pourtant, si en apparence le monde semble avoir retrouvé la paix, d'étranges rumeurs subsistent. 60 ans plus tard, au sein des éditions Cucugnetas, un éditeur reçoit un curieux projet de manga. 40 ans plus tard, dans le château Mito, la princesse héritière a disparu. Oshiru, ninjette, alors ninjette ce sont des ninjas au féminin, sans peur et sans reproche, va partir à sa recherche. Voilà le résumé, c'est exactement ce qui se passe dans les premières pages, t'es complètement paumé. L'auteur qui vient défendre en fait son projet à l'éditeur, je rappelle les éditions Cucugnetas, c'est l'auteur lui-même. Donc et dans les premières pages, jusque j'ai pas tout à fait fini, si je dois être complètement honnête, j'ai pas bité grand chose. Au bout d'un moment, on finit par trouver un semblant de narration, mais c'est un espèce de fourre-tout. On a l'impression qu'il est en écriture automatique.
Il avait pas dit qu'il voulait faire un truc super simple et compréhensible.
Mais c'est assez fabuleux, quand même. Je pense qu'en fait, il se fout de la gueule du monde du début à la fin, et ne serait-ce que pour ça, bravo monsieur. Alors, je suis pas le plus grand lecteur de manga autour de cette table, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, je laisse ça aux deux chauves de l'émission, mais j'estime tout de même avoir quelques bases concernant les productions séquentielles du Pays du Soleil Levant.
Il est pas gentil.
J'avoue que là, je suis tombé de ma chaise en lisant cette œuvre. J'avais déjà exploré les abords du non-sensique japonais en chroniquant Docteur Toilette, hein, aux prestigieuses éditions Cornelius, mais là, j'ai eu l'impression de faire une plongée abyssale dans le grand n'importe quoi thématique, graphique et scénaristique. Alors entendons-nous bien, hein, je ne suis pas du tout en train de déféquer sur Mitochon Armageddon. Le bouquin se lit plutôt bien, le style graphique de l'auteur est plutôt agréable à lire, tout en maîtrise illustrative et picturale. Mais quand on est habitué à des lectures plus conventionnelles comme moi, on a un peu de mal à rentrer dans son univers qui est quand même régressif au possible. C'est-à-dire que là, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi barré et d'aussi effectivement régressif.
T'as pas lu assez de mangas des éditions Akata, du coup ?
Semblerait, ouais. Le manga qui passe son temps à parodier d'autres œuvres manga n'y va pas de main morte. C'est souvent gore, c'est souvent bas du front, c'est même parfois ça descend sous le niveau de la ceinture. Alors c'est bourré de références explicites que j'ai pas forcément, mais je pense que les lecteurs, les aficionados de manga choperont plus facilement que moi.
Tu finiras, tu me le prêteras.
Et ce sont des mises en abîme outrancières à qui mieux mieux. Alors il y a une chose de sûre, c'est que ce manga ne peut pas laisser indifférent. C'est pas possible. On aime ou on déteste, mais je pense que
entre les deux, il y a pas de nuance.
Ouais, non, à mon avis, ouais. Voilà. Donc je redonne les
références.
Voilà, je cherche un autre mot, mais c'est ça, les références. Mitochon Armageddon à la recherche des boules du dragon par Gataroman aux éditions Akata dans l'étonnante, encore une fois, collection What the Fuck.
Alors, juste parce que je le vois là, dodo, il y a marqué pour public averti.
Tout à fait.
Oui, à ce point-là.
Oui, à ce point-là.
D'accord, ouais. Ok. Bon, bah écoute, je te le piquerai.
Ah bah écoute, on sent un intérêt certain, bravo.
En fait, c'est rigolo parce que le dessin est étonnamment détaillé en fait pour une histoire aussi barrée en fait. On pourrait s'attendre à un trait qui corresponde à l'humour complètement cinglé du tome, alors que bah, pas du tout. Et c'est même assez joli la plupart du temps.
J'aurais pas dit détaillé, moi, mais j'aurais dit velouté, parce que du coup, il est pas en ancrage, il est sur une espèce de.
C'est un crayonné
poussé. Qui lui permet d'avoir. Ouais, c'est même un crayonné très très propre, en fait. Hein, et ce qui est étonnant, c'est que t'as une espèce d'aspect un peu conte de fées, un peu doucereux. Graphiquement parlant, en tout cas,
qui contraste le propos
totalement avec l'histoire en présence. Mais c'est étonnant à tout point de vue. Moi, j'aime bien être étonné, donc voilà. Je garantis pas que j'aille au bout de 6 tomes si on continue sur cette voie-là. Mais mais voilà, ça suscite l'intérêt.
Merci, Tony.
Avec grand plaisir.
De mon côté, pour continuer, je vais rebondir un petit peu sur l'actu, puisqu'il y a un nouveau Terminator qui sort, avec Terminator Dark Fate, la grande re-rencontre de Schwarzenegger et
Sarah Connor.
Linda Hamilton.
Oui, du coup, Sarah Connor.
Sarah Connor. puisque vient de sortir, il y a quelques semaines déjà, aux éditions Vestron, alors, c'est pas des fascicules, j'aime pas dire que c'est des fascicules, mais ça, c'est très proche en fait du format comics de base.
Bah, on est sur du fascicule, si, alors en l'occurrence, la sauce américaine à proprement parler, mais oui, voilà.
Des quoi ?
C'est presque un télé-Z, donc plus que les agrafes.
donc en format souple, vient de sortir du coup Terminator Sector War, scénarisé par Brian Wood et illustré par Jeff Stokely. Et du coup, ce qui est encore plus sympa, c'est qu'on raccroche vraiment les wagons de la série originelle. Pour rappel, hein, ceux qui ne connaissent pas Terminator, il s'agit d'un T-800 qui vient du futur pour oxyre de but en blanc Sarah Connor, puisqu'elle va être la génitrice de John Connor, le sauveur de la résistance et du monde par la même occasion. Après, il y a une histoire de boucle temporelle, puisque la personne qui est censée sauver Sarah Connor devient le papa de John Connor, avec toutes les implications que ça peut avoir. Mais si vous avez bien suivi, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul T-800 qui a été envoyé, donc le robot méchant, à l'époque pour tuer Sarah Connor. Il y en a eu deux. Et dont un qui n'avait pas pour mission de tuer Sarah Connor, mais de tuer Lucy Castro. Pourquoi, me direz-vous ? Puisque Lucy Castro va enfanter, elle aussi, un sauveur de l'humanité, ou plutôt quelqu'un qui va filer un coup de main au John Connor du titre pour pouvoir sauver l'humanité. Et comme elle file un bon coup de main, on s'est dit que ce serait bien de se débrouiller pour qu'elle ne naisse jamais. Et du coup, cette Lucy Castro, c'est une jeune femme flic à New York, qui un jour finit son service avant de tomber face à un type moitié plus patibulaire que le Schwarzenegger de la grande époque, un type qui n'est pas néanmoins carré et qui va décider de mettre New York à feu et à sang. Jeune fliquette, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se réfugie dans les quartiers les plus malfamés et va confronter notre robot au pire marchand d'armes du coin, quitte à foutre tout le quartier dans un sale état. Ça se lit extrêmement vite, c'est comme une course-poursuite assez haletante, c'est assez rythmé avec quelques petites surprises, puisqu'il faut savoir que Lucy Castro n'est absolument pas au courant qu'elle est enceinte au moment où la bestiole débarque et qu'elle prend le temps d'échapper un petit peu à son poursuivant pour aller chercher un test de grossesse, vérifier quand même si c'est pas des conneries et que, non, c'est pas des conneries. Mais du coup, c'est franchement sympa. Pour ceux qui aiment bien le côté Terminator, on retrouve toute la saveur de ce qu'il y avait dans Terminator 2. Pas le 1, malheureusement, moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu en deçà. Mais vraiment la saveur course-poursuite assez haletante. Et ça passe ultra bien. Et ça s'inscrit vachement bien dans la timeline. Je ne me rappelle pas d'avoir un personnage qui s'appelait Castro dans les films. Mais du coup... ça donne envie de voir les suites, puisque suite il y aura, je ne vous cache pas que Lucy Castro survit, et sur une belle image, que je vous laisserai découvrir quand même, elle s'en va, elle fait, avec de la chance je serai à Los Angeles avant le week-end, je vais trouver cette Sarah Connor, je crois qu'on a des choses à se dire. Et du coup ça conclut, et ça donne envie de voir la suite, et franchement, chapeau, parce que c'est un récit complet, ça coûte pas super cher, je sais plus, mais c'est des petits bouquins pas trop chers qui permettent de découvrir des pépites sur des licences qu'on n'aurait pas vu autrement. J'en profite pour reparler de deux choses qui étaient sorties et dont je n'avais pas parlé il y a un moment, toujours sur les licences et toujours chez Vestron. On avait Aliens, Cendre, Dust to Dust de Gabriel Hardman et Rain Beredo, où on voit un jeune garçon tenter de fuir une invasion alien qui s'est déclarée dans une ville. Donc on est on revient pareil aux essences en fait de ce qui ont fait les licences aliens vraiment très intéressantes, à savoir des gens qui vont commencer à fuir, à se faire décimer un par un par les aliens. Là où c'est vachement sympa, c'est que les aliens, on les voit peu, on les voit de manière assez furtive au départ et puis de plus en plus présents pour vraiment faire du mal aux gens, et ils le font vachement bien. Et puis on avait eu Predator Chasseur qui là était complètement différent, puisqu'on suit un groupe en fait qui va se débrouiller pour qu'on ne ramasse rien en fait des prédateurs, et du coup là on est vraiment sur quelque chose de différent. On a un groupe de mercenaires qui va affronter des prédateurs presque tête baissée pour éviter que des agences gouvernementales de certains pays ne foutent la main sur les prédateurs et ne fassent n'importe quoi avec. Ça c'était sorti, c'est de Chris Warner et Augustine Padilla, et c'est assez différent. Je pense qu'il y a un volume que j'ai pas lu avant, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas compris, ou alors c'est que c'était fait exprès, mais ça vaut le coup, toujours chez Vestron. Donc allez voir, je crois qu'il y a un Robocop qui devrait sortir dans pas très longtemps. C'est des petits formats. Tu disais, Anthony ?
Non, je vais « Oh ».
Oh ! Mais du coup, ouais, c'est des petits formats, ça se lit bien, et ça permet de découvrir des licences, comme on avait déjà parlé de Ash versus Evil Dead, on avait déjà parlé de Vampirella en duo avec Kiss. Ça fait des trucs qui sortent un peu du lot, et qui sont plus sur du comics, malgré les licences, on est plus sur du comics indé quand même, et c'est top.
Ouais, je me demande du coup s'il y aurait... des adaptations de licences de films américains que j'aimais bien comme ça, notamment de films d'horreur, je pense.
Ah bah là, si tu veux, au niveau des prochaines sorties, si tu prends à la fin, on a du G.I. Joe Homefront qui va sortir, on a les Predators qui sont annoncés, on a le Alien 3 par William Gibson, donc un scénario abandonné d'Alien 3 qui a une seconde vie en comics, et ça, tu vois, c'est le genre de truc qui, moi... me font vibrer en fait, de dire tiens, il y a des trucs qui n'ont pas marché parce que peut-être trop innovants, et du coup ça permet de découvrir des choses. On a des gens bizarres devant la porte, et bien sûr quand on dit bizarre ça rime avec bazar, c'est bien sûr les gars du Gros Bazar qui débarquent. Allez-y les gars, rentrez, hein, je vous fais ils sont moins beaux que d'habitude en plus. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve, il est 19h58. Un petit porky. That's all, folks. 19h58, c'est le moment de laisser la place et entrer au Gros Bazar. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? On avait dit qu'on ramenait pas nos conquêtes au... Ah là là, Le Gros Bazar, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h à 20h, c'est toujours l'heure de la case de Seb, pour de nouvelles chroniques bande dessinée, peut-être du manga de la part de Tony ?
Ah non, c'est fini, par mois c'est amplement suffisant.
Peut-être du manga de la part d'Anthony ?
Non, moi je serai pas là la semaine prochaine.
Eh ben voilà, pas d'émission le 11 novembre, hein, je précise, on sera férié et puis on va en profiter pour lire des trucs, parce qu'on en lit déjà pas assez. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à lire ce dont on vient de parler, ce sont de bonnes sources de culture, d'inspiration. Lisez même d'autres trucs qu'on ne vous a pas conseillé, c'est l'occasion aussi de découvrir. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez venir faire un petit tour dans la case de Seb, c'est une émission qui est porte ouverte, si vous voulez faire un petit coucou, ou au moins juste voir comment ça marche, n'hésitez pas non plus. On se retrouve la semaine prochaine, et on vous laisse en compagnie du Gros Bazar. Bonne soirée à tous.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Kaizoku-oni, ore wa naru.
Batman. Oh, la petite ch'touche.
Batman. Trop vite, venez pas chez toi ici.